un club de cinéma ici, mais je voudrais me servir de cette bande-annonce pour illustrer quelques-uns de mes propos. Alors, il y a quelque temps de cela, Manuela a prononcé une phrase lors d'un culte. Elle a glissé une phrase à un moment donné qui m'a vraiment percuté. C'était quelque chose de très simple qu'elle a dit, mais pour moi, il y avait vraiment une profondeur qui m'a vraiment percuté. Elle a dit tout simplement la chose suivante: l'orphelin a peur de perdre. Donc, à partir du moment où on a peur, et souvent on a peur de perdre quelque chose, quand on a peur, on est dans une mentalité d'orphelin. Et ça m'a vraiment travaillé ça. Et vous savez, je crois que l'esprit d'orphelin, enfin, je pense que c'est pas un secret, mais l'esprit d'orphelin, il est vraiment présent dans notre nation de France. Et il a, selon moi, une double facette. Premièrement, et ça va vous paraître évident, on est orphelin lorsqu'on ne connaît pas Dieu le Père du tout. C'est évident. Et vous savez, la culture populaire, avec toutes les souillures qu'on peut y voir hein, dans l'art, le cinéma, mais je crois que cette culture populaire, elle peut exprimer un besoin profond. Des aspirations, des souffrances de la création. Il est dit dans la parole de Dieu, il a dit que la création, elle gémit, elle soupire et elle aspire. Et donc je crois qu'il y a parfois des choses, des souffrances qui sont exprimées à travers la culture, l'art, le cinéma. Et un jour, j'avais assisté à une petite campagne d'évangélisation à Stuttgart et j'étais frappé par une chorégraphie qui a été présentée en introduction de ce temps d'évangélisation. C'était donc des Allemands qui ont fait une chorégraphie sur une chanson très populaire aussi qui s'intitule Où t'es, papa? Où t'es? Et moi, je connaissais pas, je suis pas un pro de la culture populaire, je connaissais pas. Et il faut savoir que le clip, je pense que beaucoup d'entre vous vous connaissez, mais le clip, je l'ai vu aussi récemment, c'est un clip qui a été vu, il a été vu 600, donc par 600 millions de personnes. En tout cas, il y a eu 600 millions de vues dans le monde. C'est la vidéo francophone la plus regardée, on va dire, dans le monde. Et qu'est-ce qu'on y voit? On voit un enfant qui est face à son père. Son père, il est immobile, amorphe, il est sur un canapé, il bouge pas. Il n'y a aucune émotion, rien, il ne parle pas, il est immobile. Et son fils essaye de le secouer et son père ne réagit pas. Et donc il y a du désespoir qui est exprimé dans ce chant et de la colère. Alors après on peut se dire, voilà, bon, ben le chanteur, il s'est fait beaucoup d'argent, voilà 600 millions de vues, il est populaire, il est riche, ainsi de suite. Mais il faut savoir que ce chanteur, il a écrit ce chant en pleurant, parce que son père est décédé, donc il est orphelin, mais son père aussi, lorsqu'il était vivant, c'était quelqu'un de très volage, infidèle à sa femme, et ça a été très difficile pour lui. Donc, moi je crois que la culture populaire, donc malgré toutes ces souillures, elle peut exprimer un cri, une détresse. Et moi, je crois que c'est notre rôle, aussi en tant qu'Église, d'intercepter ce cri et d'intercéder pour la création. Non pas de quelque part se laisser bercer par toute cette culture populaire, de se laisser happer par une tristesse qui vient du monde, hein, parce que ça aussi, cette tristesse de ce monde qui produit la mort, c'est un risque. Donc, il ne faut pas écouter ce genre de choses en boucle, c'est absolument pas ce que je dis. Mais par contre, simplement capter ce qui est exprimé. Regardez ce qui nous est dit dans 1 Timothée 2:1. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Et un peu plus loin, il est dit, voilà, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ma prière pour ce chanteur et pour d'autres aussi, voilà, c'est que pour toutes ces personnes qui sont orphelines, c'est qu'elles connaissent le cœur du Père et qu'elles ne cherchent pas des pères de substitution. j'avais parlé de double facette de l'esprit d'orphelin pour moi, et l'autre est un peu plus subtil, mais je crois que on est dans une mentalité d'orphelin à partir du moment où on a une fausse image du Père, où on ne connaît pas le Père tel qu'il est vraiment. Et cette fausse image du Père, je trouve qu'elle est un peu, elle est voilà, symbolisée, elle est exprimée à travers ce directeur de cet orphelinat, qu'on voit à un moment donné à la fenêtre, qui est colérique, froid, distant, un peu un dieu jupitérien, et qui est en colère pour la moindre erreur. Donc ça veut dire que cette mentalité d'orphelin, cet esprit d'orphelin, il peut toquer à la porte du croyant. Il peut toquer à la porte du croyant à travers des pensées, par exemple. Un poète a dit que la chair est triste. Donc la chair est triste. Et je trouve ça intéressant parce que ce qu'il veut dire par là, si je comprends bien ce poète, Stéphane Mallarmé, dit la chair est triste, c'est-à-dire la chair aspire au plaisir de ce monde, et voilà, donc après, quand ses besoins sont assouvis, il y a un vide, et ensuite il y a de nouveau un besoin qui est recréé, c'est tout un cycle, mais en fin de compte, la chair ressent ce vide. Et moi, j'aurais envie de dire que la chair, je crois qu'elle est aussi, d'une certaine manière, orpheline. Notre chair est orpheline. D'ailleurs, vous trouvez dans les versions, dans certaines versions de la Bible, au lieu d'homme charnel, vous trouvez la traduction homme et femme livrés à lui-même. C'est-à-dire livrés à lui-même, recroquevillés sur lui-même, sur ses besoins, et donc qui ne s'ouvre pas au cœur du Père. Et donc marcher par la chair, c'est quoi en quelque sorte? C'est marcher comme un homme, une femme qui est livré à lui-même, qui se recroqueville sur lui-même, et qui puise dans ses propres ressources, et qui met aussi en place sa propre justice, son propre système de pensée. Donc, je vais essayer de faire un petit parallèle très, très caricatural, approximatif, avec ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Donc, les choristes, ou comme vous l'avez compris, c'est des orphelins, ils sont brisés par la vie, et ils sont brimés par les surveillants, par le directeur. Donc, on se moque de leur personnalité, c'est des simples numéros. Un orphelin n'habite pas dans la maison du père. Un orphelin, il est soit derrière la maison, soit il est devant. Enfin, devant, c'est-à-dire éloigné dans la rue ou bien éloigné. Il peut être un peu devant. Enfin, il peut être juste sur le seuil de la porte. Derrière la maison, vous avez le jardin du légalisme. Donc, on est tout près de la maison du Père, mais on n'est pas dedans. Et je pense que cet esprit de légalisme est une composante ou une forme d'expression d'esprit d'orphelin. Et ce légalisme peut provoquer quoi? L'orgueil, il peut engendrer la honte, le découragement, et il peut engendrer aussi la rébellion, le découragement. Donc, vous avez les orphelins, vous avez des orphelins qui peuvent être derrière la maison, esprit de légalisme, et les orphelins qui sont devant, ça c'est l'esprit de rébellion, et on peut avoir ce mouvement-là. Donc, un orphelin qui a l'esprit un esprit légaliste, il peut vite sombrer dans l'esprit de rébellion. Et on peut aller dans les deux sens. Et ces deux sentiers-là peuvent engendrer l'esclavage. Et là, on voit que ces enfants, ils ont clairement un esprit de rébellion. Donc, ils ont un vide en forme de Dieu le Père, et donc ils comblent ce vide donc, en faisant des bêtises, en se rebellant. Et ça nous fait bien sûr penser au fils cadet, hein, au fils perdu dans la parabole. Mais je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, on voit un petit garçon avec une petite valise qui attend à un portail. Pardon? Pépino. Et donc, c'est très beau parce que c'est un garçon donc orphelin. Et tous les samedis, tous les week-ends, donc, il allait à ce portail parce qu'il était persuadé que ses parents allaient revenir. Il avait cette foi. Et je pense que les autres orphelins, ils se moquaient bien de lui. Ils disaient, tu peux y aller, ça ne sert à rien, vas-y, retourne-y. Mais il y allait à chaque fois. Et sa foi, elle va payer. Sa foi, elle va être payante, comme on va le voir après. Et moi, ça me parle du fait de chercher Dieu. De chercher Dieu. Et dans la chanson de Stromae, Papa Outé, il y a une petite note d'espoir. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que même, parfois, dans la culture populaire, on peut avoir des... C'est comme si les gens, parfois, ils touchaient intuitivement du doigt des vérités bibliques. Il est dit, simplement... Quand on cherche bien, on finit par trouver. Quand on cherche bien, on finit par trouver. Et je suis tombé sur un verset, plusieurs versets, dont l'un qui dit, psaume 14, 2, « L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est qu'il y a plusieurs définitions de l'intelligence. Job 28:28, l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Donc, c'est très éloigné de la conception d'intelligence qu'on a dans le monde. Mais là, je trouve ça intéressant. Il y a comme un lien, en tout cas un lien que je vois, entre le fait de chercher Dieu, d'être intelligent. Et donc voilà, chercher le Père. Chercher le Père. Et c'est ça aussi qui doit être notre prière. C'est que prier pour que les orphelins autour de nous cherchent le Père, pour qu'ils entrent dans la maison du Père. Et là, je voudrais juste vous raconter un petit témoignage qui est vraiment tout à fait glorieux. Il y a quelques années de ça, j'étais à un terrain de jeu avec mes enfants et je rencontre une dame chrétienne. Et elle me parle de son fils qui a 7 ans. Et son fils n'a jamais vu son père, jamais. Et son fils lui avait dit, « Maman, je veux voir mon père. » Ok. Et son père, donc, s'était jamais manifesté pour le voir. Il a prié. Et figurez-vous que 7 jours après, le père s'est manifesté de sa propre initiative pour voir son enfant, pour la première fois de sa vie. Et ça s'est très bien passé. Et je me dis, moi, c'est grandiose. Je veux dire, un enfant de 7 ans qui dit, ok, je vais prier, et 7 jours après, il y a le père qui se manifeste. Enfin, je trouve que c'est un témoignage glorieux, gloire à Dieu, et qui a vraiment dû encourager cet enfant. Et donc, on le voit après dans cette bande-annonce, il y a donc le monsieur Mathieu qui vient, ce surveillant. Et quelque part, voilà, ce surveillant, c'est peut-être comme une réponse à la prière, entre guillemets, de ce jeune Pépino qui attend un père, parce que monsieur Mathieu, il va avoir ce rôle de père. Donc il est surveillant, et qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à honorer ces jeunes. Et honorer, le terme grec, je crois que c'est timéo, je crois que c'est, enfin peu importe. Mais honorer, il y a une double facette dans le terme grec, c'est estimer quelqu'un, tenir quelqu'un en haute estime, et c'est aussi prendre soin de lui. Il y a ces doubles facettes dans le terme honorer. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va leur donner de la valeur, il va s'intéresser à eux, et il va les remplir d'espérance. Il va leur demander à un moment donné, tiens, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il veut qu'ils se projettent dans l'avenir, et du coup, cette espérance qu'il leur donne va engendrer la persévérance. Et donc, là, on voit quelque part que l'esprit d'adoption commence à être à l'œuvre dans cet orphelinat. Et ça me parle beaucoup, l'esprit d'adoption. Pourquoi? Parce que ce surveillant, à un moment donné, comme le directeur, qui nous parle aussi voilà, d'un faux père, ne veut absolument pas trop qu'il y ait proximité, qu'il y ait ces relations un peu chaleureuses, eh ben, il décide de prendre ses enfants et de les faire chanter, mais la nuit, en secret, dans l'intimité. Et on a ce verset que vous connaissez tous, Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton père qui est là dans le lieu secret, et ton père qui va dans le secret te le rendra. Donc ça, c'est une caractéristique évidente pour vous, cette relation de cœur à cœur, l'intimité. Une deuxième caractéristique, ou une deuxième conséquence de l'esprit d'adoption, c'est l'identité. Donc, ces enfants, ils ont une dignité qui est retrouvée. Ce monsieur Mathieu leur redonne de la dignité, comme le Seigneur nous redonne notre dignité. Du coup, notre identité, elle est restaurée. Mais elle est restaurée grâce à quoi? Notre identité, elle est toujours restaurée grâce à la paternité. Une identité sans paternité est vide. Et donc, ces enfants, ensuite, ils découvrent la sécurité affective dans le Père. Donc, ils ont cette sécurité affective avec cette figure du Père représentée par M. Mathieu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? M. Mathieu les ramène, enfin, le Père les ramène dans sa maison. Et mais ils ne sont plus dans l'esprit de rébellion. Ils commencent à s'épanouir. Ils sont dans la joie du royaume. Dans la joie du royaume. Et ensuite, autre chose, c'est que M. Mathieu ne se contente pas de restaurer leur identité, va plus loin. Et là, il est question de la destinée. Parce qu'il en fait une chorale, et il fait d'abord une sorte d'audition, et il va évaluer chacun, et il va mettre chacun à sa place, en fonction de qui il est, en fonction de sa voix. Et ça nous parle bien sûr du corps de Christ, de notre destinée individuelle aussi. Moi je te mets là, toi je te mets là, toi je te mets là. Mais ensuite, ça nous parle aussi de notre destinée collective. Parce que Voilà, il est question d'orchestre, de chorale, d'orchestre, et tout le monde doit être à sa place. Et ensuite, bien sûr, la musique, c'est la louange. Et ces jeunes commencent à apprécier le chant, et ça nous parle de la louange. Donc, quel schéma peut-on y voir? Moi, j'y vois le schéma suivant, et ça me parle maintenant aussi pour l'Église. Paternité, identité, unité et destinée. Paternité, identité, unité. Sans paternité, pas d'identité. Sans identité, pas d'unité. Je suis peut-être un peu radical en disant ça, ou on peut le dire de la manière suivante. Si l'identité, si la paternité est fragile, l'identité sera fragile, l'unité sera fragile. Et donc, il y a un véritable enjeu. Il y a un véritable enjeu. Et vous savez, quand on voit si notre identité est bien enracinée en Christ, c'est quand les choses ne vont pas. Quand il y a des accords, quand il y a des tensions. C'est Bill Johnson, je croyais, qui disait que l'honneur s'exprime dans le désaccord. Quand il y a des tensions, là, on voit si l'unité, si notre identité déjà elle est solide, et par conséquent aussi l'unité, si elle l'est ou non. C'est pour ça que je voudrais vraiment vous proposer aussi après, j'espère qu'on aura le temps, un temps de prière, un temps d'intercession aussi, par rapport à cet esprit d'adoption, l'esprit d'orphelin aussi. Donc comme je vous l'ai dit, voilà ce petit Pépino-là, il attend avec sa valise. Et sa foi va être payante parce qu'à la fin, M. Mathieu décide de l'adopter, l'esprit d'adoption. Et là, je voudrais, si possible, qu'on affiche le verset suivant, Éphésiens 1, 4 à 1, 5. Éphésiens 1, versets 4 et 5. Nous sommes prédestinés. Je vais lire avec vous. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensible. Donc déjà, sans reproche, ça nous parle aussi des chemises blanches. Quand les choristes ont fait leur intervention, ils avaient toujours une chemise blanche. Ça nous parle du pardon. Ils sont lavés. Et le chef d'orchestre les voit avec cette chemise blanche. Donc, et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. On est prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et le terme grec, huiotesia, veut dire effectivement adoption, adoption comme fils. Et huiotesia est composé du terme huios, fils, et d'un dérivé titémi qui veut dire fixer, établir. Donc établissement de fils, établir des fils. On est destiné à être établi comme des fils. Tous les hommes sont destinés à être établis comme des fils et des filles. Donc, où je veux en venir, c'est qu'on doit accueillir cet esprit d'adoption pleinement dans nos vies, pleinement. Avant, on avait dit voilà que Christ nous a rachetés. La question, c'est de savoir pourquoi il nous a rachetés. Et il y a un verset qui dit aussi qu'il nous a rachetés pour que nous obtenions l'adoption. Donc, à nous de saisir pleinement l'adoption. Galates 4:6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Romains 8:14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Première remarque, et c'est peut-être un détail, mais pour moi, ce n'en est pas un. Il est question d'un cri dans les deux versets que j'ai cités. L'Esprit de son Fils crie « Abba, Père ». Esprit, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Moi, ça me parle de notre cœur, de nos tripes. Voilà, on crie « Abba, Père ». Donc, il faut que cet esprit d'adoption, il remplisse nos tripes, nos entrailles, et qu'il se saisisse de tout, de notre cœur, notre pensée, et ainsi de suite. Ensuite, je reviens à ce que Manuela avait dit. Elle dit « L'orphelin a peur de perdre ». Il a peur. Là, on l'a vu, que l'orphelin est dans la servitude, c'est un esclave, esclave de ses peurs notamment, esclave de sa rébellion. Regardons comment s'y réagissaient les enfants d'Israël. Exode 6, 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude, les empêchèrent d'écouter Moïse. Lorsqu'on a peur, lorsqu'on est sous l'esclavage, on a du mal à entendre la voix du Père. Et on se recroqueville sur nous-mêmes, on se ferme, on s'isole, on s'enferme. Mais un enfant de Dieu, un fils et une fille, sont héritiers. Et là aussi, on voit le lien entre la filiation et l'héritage. Et quelque part, si on sait qu'on a cet héritage, on devrait réaliser dans notre cœur qu'on n'a plus à avoir peur de quoi que ce soit. Regardez, qu'est-ce que dit le père dans la fameuse parabole des deux fils, Luc 15. Qu'est-ce qu'il dit le père au fils aîné? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Il y a tellement de versets qui devraient nous rassurer et qui devraient nous enlever nos craintes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous êtes mort, votre vie est cachée en Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, tous vos besoins. L'amour parfait bannit la crainte. Quels sont les signaux qui nous permettent de déterminer si on ne dérive pas un peu vers la mentalité d'orphelin? Parce qu'on peut avoir des pensées qui viennent, des pensées contraires au royaume et qui veulent nous faire sortir de la maison de Dieu. Soit dans le jardin du légalisme, soit sur le sentier de la rébellion. Donc je voudrais juste vous donner quelques éléments. Mais c'est Anne que je remercie aussi qui m'avait fourni ce document. C'était Bethel qui l'avait remis. C'est issu d'un fascicule qui s'appelle École du ministère de la culture du Royaume-Uni. C'est vrai qu'Anne n'est plus là. Alors écoutez bien. L'orphelin est indépendant et autonome. Un fils et une fille de Dieu est interdépendant. Ça nous fait parler aussi de l'orchestre. On a besoin des différents instruments. Indépendance. Interdépendance. Le cœur d'un orphelin est dans l'insécurité et manque de paix. Un fils et une fille de Dieu est dans le repos et la paix. Un orphelin recherche l'éloge, l'approbation de l'homme. Un fils de Dieu est totalement accepté dans l'amour de Dieu et justifié par sa grâce. Un orphelin se doit de gagner la faveur de Dieu ou n'a aucune motivation du tout. Tandis qu'un fils, lui, il est pleinement saisi par cette relation avec son père, il est dans le plaisir de cette relation, dans les délices de Dieu. Un orphelin doit être saint pour avoir la faveur de Dieu, ce qui augmente le sentiment de honte et de culpabilité. Un fils veut être saint. Il ne veut rien qui puisse entraver sa relation intime avec Dieu. Un orphelin, souvent, peut avoir un sentiment d'auto-rejet qui est provoqué par la comparaison à d'autres. Un fils et une fille de Dieu a une image positive parce qu'il sait qu'il a une grande valeur pour Dieu son Père. Un orphelin recherche le confort dans des affections, dans des contrefaçons. Ça peut être des addictions, des compulsions, des activités intenses, l'activisme, ou bien hyper religieuses, le légalisme. Un fils et une fille de Dieu cherchent des moments de calme et de solitude pour se reposer dans la présence et l'amour du Père. Un orphelin doit parfois lutter contre des sentiments de concurrence et de rivalité et de jalousie par rapport aux autres. Alors que un fils et une fille, lui a de l'humilité et il se bat pour l'unité. Et il apprécie les autres, il est capable de se réjouir des succès des autres. Un orphelin a du mal à recevoir une réprimande. Il est facilement blessé. Tandis qu'un fils et une fille de Dieu c'est que la réprimande est une bénédiction. Et enfin, il y a encore deux petits points. Un orphelin a une ambition spirituelle. Il a un désir sérieux de réussite spirituelle et de recevoir une distinction. Il a une volonté ferme de se battre pour la recevoir. Il a un grand désir d'être vu et d'être compté parmi les chrétiens les plus matures. Un fils, lui, veut simplement expérimenter au quotidien l'amour inconditionnel du Père. Et ensuite, il se sent envoyé en tant que représentant du Père, de son amour envers sa famille et les autres. Et en ce qui concerne l'avenir, l'orphelin, lui, il dit « Combattez pour ce que vous pouvez obtenir ». Le fils, il dit « Je suis un enfant de Dieu libéré, j'entre dans mon héritage ». Vous savez, il y a un verset que je trouve vraiment glorieux dans Romains 8, verset 21, où il est dit justement que la création, elle soupire, elle gémit et elle aspire à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Elle aspire à cette liberté. Et ma prière, c'est qu'on puisse, en tant que fils et filles, bien enracinés dans notre identité, qu'on puisse exprimer pleinement cette liberté. Il est dit aussi que la Jérusalem d'en haut, elle est libre et que c'est notre mère. C'est pas voilà, la Marianne révolutionnaire comme on peut le voir. Mais là, on voit de nouveau un lien entre la filiation et la liberté. La Jérusalem d'en haut, elle est libre, c'est notre mère. Donc il faut vraiment qu'on reste attaché à cette liberté de fils et de filles, et afin de ne pas dévier et de tomber dans l'esclavage de l'esprit d'orphelin. Donc ma prière, c'est qu'on puisse, c'est bien parce que je pense qu'on aura vraiment le temps encore de prier ensemble. Ma prière, c'est qu'on puisse déjà prier individuellement pour tous les orphelins de notre entourage qui ne connaissent pas Dieu le Père, mais qu'on puisse aussi prier pour que nous-mêmes, qu'on reçoive pleinement cet esprit d'adoption pour recevoir ces orphelins dans la famille, dans la maison de Dieu, mais avec une mentalité de fils et de filles, et pas avec une mentalité d'orphelin. J'étais dernièrement à la médiathèque, et là, on m'avait proposé d'intervenir aujourd'hui, et j'avais donc ma thématique en tête. J'avais vraiment à cœur de parler de l'esprit d'adoption. Et je suis tombé donc sur le journal, et c'est comme si ça a été une confirmation de ce que je voulais vous apporter. Je suis tombé sur un article qui s'intitulait « Adoption, vite une réforme ». Et cet article disait que 49% des enfants orphelins en France ne trouvent pas de famille. Et d'un autre côté, il y a 14 000 familles qui ont un agrément en cours pour adopter des enfants. Et donc le gouvernement a remarqué qu'il y avait un problème. Et donc, du coup, ils ont mandaté des parlementaires pour essayer de trouver une solution. Leur objectif, améliorer le chemin vers l'adoption des enfants placés. Et je trouve, moi, ça me parle aussi au niveau spirituel. Et autre chose, dans la nuit du 2 au 3 mai, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, je me voyais dans une assemblée politique. Et il y avait des tensions. Il y avait des tensions, des gens qui s'énervaient. Et à un moment donné, alors que je rêve rarement de politique, il y a Daniel Cohen-Bendit, je ne sais pas si vous connaissez, Daniel Cohen-Bendit, qui vient s'asseoir à côté de moi. Et donc Daniel Cohen-Bendit, lui, c'était la figure du mouvement étudiant durant mai 68, donc figure anti-autoritaire, libertaire... Voilà. Et il commence à me parler, et très cordialement, et il me parle de ce qu'il a fait à la Brême d'Or. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, moi, je suis originaire de la Brême d'Or, c'est un tout petit village minuscule qui se trouve à quelques mètres de la frontière franco-allemande. Et Daniel Cohen-Bendit, il est né en France, mais il est né de parents allemands. Il avait choisi la nationalité allemande. Alors, avec toutes les bêtises qu'il avait faites, à un moment donné, le gouvernement a dit, hop, on l'expulse. Et donc, il est parti. Il a dû partir en Allemagne, mais il est revenu au poste frontière parce qu'il voulait retourner en France. Il voulait retourner en France. Et du coup, donc il était au poste frontière de la Brême d'Or, il y a des discussions, ainsi de suite. Et finalement, on lui a dit non, tu peux pas. Tu peux pas rentrer, tu peux pas revenir en France. Il est reparti en Allemagne, mais il a dit, moi je reviendrai. Et quelques semaines plus tard, il s'est déguisé, il s'est teint les cheveux, et il est retourné tranquillement à la Sorbonne, il a passé la frontière. Et pour en revenir juste à la médiathèque, le lendemain de ce rêve, donc j'étais face au journal, je vois l'article, l'adoption vite une réforme, et vous avez toujours une partie, ce qui arriva un 3 mai. Et d'un coup je vois, 3 mai, occupation par les étudiants de la Sorbonne, puis évacuation par la police, donc des étudiants, ce qui déclencha les événements de mai 68. Oh. Et là, tout de suite, j'ai dit, tiens, mais... Et alors que je ne m'intéressais pas du tout à cette thématique, je veux dire, j'étais loin de m'intéresser à mai 68, là, actuellement, j'ai d'autres choses à faire. Mais j'ai dit, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose... est-ce que c'est pas un sujet de prière, ça? Parce que là, ça parlait de quoi? Ça me parle de l'esprit de rébellion. Et on parle des gilets jaunes. Moi, je pense notamment à ces personnes violentes qui sont là pour casser, qui sont là à tout remettre en question, à détruire dans tous les sens du terme. Et là, je me dis, ouais, ça, c'est peut-être un problème. Et l'esprit de rébellion, est-ce que c'est pas justement une des expressions de l'esprit d'orphelin? Je n'ai pas de père, donc je n'ai pas de repère, donc il y a un vide, je ne sais plus où je vais, donc il y a une colère qui monte. Et je voudrais vraiment vous inviter à avoir un temps de prière ce matin, vraiment un temps d'intercession, déjà au niveau individuel, pour prier pour des personnes. Vous pourrez nommer des personnes qui ne connaissent pas Dieu le Père ou qui ont des luttes peut-être pour rentrer dans la maison du Père, intercéder pour eux. Et la prière du juste est efficace. Je me souviens, il y a très longtemps de cela, un jour, Julie, donc mon épouse, elle arrive devant moi, complètement en larmes, effondrée. Angoisse existentielle, un vide. Et elle ne connaissait pas Dieu le Père. Elle était orpheline à ce moment-là. Et moi, qui connaissais Dieu le Père, je téléphone à sa maman et je lui dis, waouh, mais il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose avec votre fille. Et elle me dit, j'étais à un séminaire à l'époque, je crois que c'était avec Stella Larocque, et j'ai intercédé pour ma fille. Quelques jours auparavant, elle a intercédé pour sa fille. Et Julie a été retournée comme une crêpe quelques jours après. Donc ça doit vraiment nous encourager à prier pour nos proches. Mais ensuite, prier aussi pour notre nation. Donc, voilà, prier pour que l'esprit d'orphelin puisse partir avec toutes ses composantes, y compris aussi dans l'Église, dans le sens universel du terme. Mais prier pour que l'esprit d'adoption remplace l'esprit d'orphelin, pour qu'il n'y ait pas de vide. Et Luc était dernièrement chez nous, il m'a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Et il m'a dit qu'il croyait que le réveil en France n'allait pas venir à travers l'apologétique, à travers les discours, à travers les raisons, mais à travers les miracles. Et c'est cette bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, nous dit l'Épître aux Romains. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et cette bonté, elle s'exprime à travers les dons de l'Esprit, à travers les miracles, les signes et prodiges, et aussi d'autres choses, bien sûr. Mais ma prière, c'est que vraiment le cœur du Père puisse être révélé et qu'on puisse aussi, nous-mêmes, en tant que fils et filles, rentrer pleinement dans cette liberté de la gloire des enfants de Dieu, la manifester aussi, et pour que l'esprit d'adoption vraiment prenne de plus en plus de place dans l'Église et en dehors, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rentrent dans la maison du Père. Alors, je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher. On va prendre deux chants ensemble, et après on va avoir un temps d'intercession donc qui pourrait être encadré par Alain. Et aussi un dernier point aussi que j'avais à cœur de vous partager par rapport à l'adoption, c'est de ne pas oublier Israël, parce qu'il est dit dans l'Épître aux Romains 9:4, il est dit que l'adoption leur appartient. C'est leur destinée d'être aussi des fils. Et voilà, priez aussi pour qu'ils